Je vous souhaite la bienvenue dans les salons de la librairie Mola. Je salue également nos auditeurs qui nous rejoignent via notre site internet mola.com. Ces derniers sont de plus en plus nombreux et nous en sommes très heureux. Vous le savez, la librairie Mola reçoit tout au long de l'année un certain nombre d'auditeurs, d'auteurs. Et pour une fois, j'ai recommandé l'invitation d'un photographe, pas n'importe quel photographe, Jean-Marie Perrier. Pour ceux qui nous écoutent, présenter un album de photographie, ça n'est pas très radiophonique.
C'est exact.
Et nous allons faire en sorte que ça le devienne.
Bravo.
Je suis très heureux de vous recevoir, Monsieur Perrier. Nous voici à 3 jours de Noël et vous nous faites la courtoisie de vous déplacer à Bordeaux. Vous êtes bien l'homme élégant dont on m'avait entretenu. Ne perdons pas de temps, voyons ce magnifique album publié par les éditions Chêne, frappé de ce simple titre « Françoise ». Tout le monde aura compris que cet ouvrage est consacré à Françoise Hardy. On ne peut être que subjugué par la beauté de cette femme.
C'est exact.
Et de la première page à la dernière.
Oui, parce que ce que je trouve merveilleux chez cette fille, c'est que d'abord, elle n'a jamais changé, si vous voulez. Elle a toujours été d'un naturel incroyable. Et alors, ce qui est formidable, c'est que j'ai rencontré, elle avait 17-18 ans, elle était d'une beauté mais incroyable. Elle ne le savait pas, ce qui est extrêmement séduisant. Et en plus de ça, elle me faisait rêver, moi, quand je l'ai rencontrée. Et ça fait 50 ans qu'on se connaît, qu'on est les meilleurs amis du monde. Et aujourd'hui, en plus, elle me fait marrer. Écoutez, c'est quand même une belle réussite.
Donc, il y a Jacques Wolfson qui vous envoie, il vous intime l'ordre d'y aller.
Oui, Jacques
Donc,
Wolfson.
Vous allez rue d'Aumale.
Oui, Jacques Wolfson, c'était. Non, c'est important de le dire parce que c'est un type extraordinaire. Parce qu'on ne connaît pas, on connaît, oui, Eddie Barclay ou les gens de cette époque-là, Johnny Stark, tout ça, mais ces gens-là qui avaient du talent, peut-être, mais ce n'est pas des découvreurs de talent. Alors que Wolfson est un type que les gens ne connaissent pas et qui restera certainement comme le seul découvreur de talent des années 60. Écoutez, regardez, il a découvert et lancé Johnny Hallyday, Françoise Hardy et Jacques Dutronc. C'est quand même pas mal. Donc ce type-là, un jour, que je connais, c'est un pote à moi, et à Daniel Philippaki, viens ici, Daffy. Et il me dit, bon, voilà, je vais lancer une chanteuse, va la voir. Bon, alors bon, j'y vais, rue d'Aumale. Et François, c'était bon, à l'appartement, j'appuie sur une sonnette, la porte s'ouvre, et c'était sa mère qui ouvre la porte, et derrière, je vois une fille comme ça, un peu triste, un peu hésitante. Et j'étais fasciné par l'endroit. Parce qu'en fait, bon, comment vous dire, moi j'ai eu la chance d'avoir une enfance gâtée. Hein, j'étais avec un père, François Perrier, un homme extraordinaire. Je vivais à Neuilly, dans un hôtel particulier. Le monde entier. Bah non, je fais là.
On en parlera plus tard.
Le monde entier passait chez moi. Et tout à coup, je peux toucher du regard la différence entre nos vies. Parce que elle, c'était un tout petit appartement. Sa mère était comptable, et avec sa sœur et sa mère, elles vivaient toutes les trois. C'est des prolos, hein. Voilà. C'est vraiment des gens qui n'ont rien, du tout, du tout. Et donc, c'est un petit peu un choc, parce que moi, à l'époque, je ne me rends pas bien compte, et puis je suis dans un endroit et un univers que je ne connais pas, hein, parce que moi, j'ai vu que des stars et des cinglés. Et elle ne sait pas très bien comment me parler parce que je suis un martien pour elle. Donc, si vous voulez, la première séance est extraordinaire parce qu'on est parti dans Paris.
Alors, vous dites, un trop grand pull en V tombait sur ses épaules. La jupe était bien droite. Des chaussures à talons bas, un peu usées.
Ben oui, c'est vrai. Elle avait, en plus, ça n'intéressait pas de toute façon son physique. Tout ça, elle considérait que ça n'avait aucune importance. En plus, elle ne s'aimait pas physiquement. Ce qui est souvent le cas des filles très belles, d'ailleurs, curieusement. J'en ai rencontré une autre comme ça récemment, qui est également ma meilleure amie, qui s'appelle Julie Andrieux. Vous la connaissez, cette fille qui fait des émissions de cuisine? Écoutez, quand je l'ai connue, elle avait 17 ans, c'était pareil. C'est le même choc que Françoise. Elle était terrorisée par son... par le regard des autres sur elle. Et Françoise, c'était pareil, elle se trouvait moche, quoi. Alors qu'elle était somptueuse. Donc vous imaginez, pour moi, c'est absolument génial. Tout le boulot est à faire, vous comprenez? Là, c'est comme de la pâte à modeler. On peut y aller. Donc c'était extraordinaire. Et en plus, elle me faisait confiance.
Ce qui est une chance.
Ben, bien sûr.
Et alors, ça a continué comment? Il faut que vous nous racontiez, là, maintenant. Vous avez débuté.
On a vécu ensemble, tout le monde le sait, on a vécu ensemble pendant... je ne vais pas vous raconter ma vie, en plus.
Ah ben si, vous êtes là pour ça. Ah, mais écoutez, quand même.
Non, on a vécu pendant quoi, 4 ans et demi, 5 ans, je crois, ensemble. Et puis, mais vous savez, c'est tellement loin, tout ça. Souvent, j'en parle parce qu'on me pose la question, mais j'ai vraiment l'impression que c'est la vie de quelqu'un d'autre, quoi. C'est tellement loin. Je revenais de l'armée d'Algérie. J'avais fait un an à Oran. Bon, c'était la guerre quand même. La dernière année à Oran, c'était sévère. Hein. Putain, il y avait des morts dans la rue, des maisons qui explosent. J'ai vu des choses terribles. J'avais 21 ans. Et tout à coup, je rentre à Paris. Boum, il fait beau. Daniel Philippaki, qui faisait son émission pour Salut les copains, donc, qui me dit, tiens, je vais faire un journal. Est-ce que tu veux le faire? Moi, je dis oui. De toute façon, attendez, j'étais à télé 7 jours. Alors, moi, je vais vous dire, hein, Catherine Langer, très gentille personne. Mais enfin, bon, sur fond de velours Bordeaux, j'en avais un peu marre. Hein. Tout à coup, il me dit, voilà, on va faire des chanteurs, des jeunes chanteurs, et ce sera du rock. Alors, évidemment, j'y suis allé tout de suite, moi. Tout de suite. Et vous vous rendez compte, vous passez des rues d'Oran avec des gens qui se font lyncher, parce que j'ai vu ça quand même pendant un an. Et j'arrive et je tombe sur Françoise Hardy. C'est en 62. Et très exactement, Françoise, c'est en septembre 62, je crois. Je crois que c'est juin, je sais pas.
Oui, d'après ce que...
Donc, c'est, voilà, ça fait un moment. Hein.
Et alors, vous disiez, je m'obstinais à la rêver. Alors que
oui,
j'aurais
c'est vrai,
dû savoir j'aurais... qu'on n'invente personne.
Oui, j'aurais dû... C'est vrai que j'ai beaucoup trop passé de temps à m'occuper de son apparence et de son image... Je me suis occupé trop de ça et pas assez d'elle, parce qu'elle, c'était une jeune fille, finalement, qui voulait des promenades main dans la main, des déjeuners sur l'herbe et qu'on aille à Venise. Et moi, je pensais qu'à lui faire faire des trucs, lui faire des photos, aller voir des couturiers. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est perdu. Si vous voulez, parce qu'à un moment donné, en plus, elle voyageait tout le temps et moi aussi. Elle ne savait jamais quand j'allais être là, moi non plus. Donc, si vous voulez,
c'est téléphoniez.
Puis c'était des gosses, quoi. On était quand même des gamins. Elle avait 17, 18 et moi 22. Bon, vous voyez, c'est très loin, tout ça. Donc, un jour, effectivement, on s'est séparés, mais gentiment. C'était pas du tout grave. D'ailleurs, elle avait des affaires à moi chez elle et moi des affaires à elle chez moi pendant au moins 2-3 ans. Parce que on se voyait tout le temps, puisqu'on travaillait ensemble. Tout le temps, les photos, j'en faisais tout le temps, même quand on n'était plus ensemble. Et puis alors, un jour, donc, elle me dit, tiens, j'ai rencontré quelqu'un. Bon, si elle a rencontré quelqu'un, je lui dis, je veux le rencontrer. Parce que je ne pouvais pas imaginer de ne pas aimer la personne qu'elle aime, puisque je l'aime, elle. Donc, forcément, je vais aimer qui elle aime. Donc, je lui dis, présente-le-moi. Et là, alors, c'est là où la vie a le sens de l'humour, c'est que, vraiment, je suis tombé fou de lui, autant que d'elle, sinon plus. C'est quand même extraordinaire. Et je leur suis très reconnaissant à tous les deux, d'ailleurs. Parce que quand même, mettez-vous à la place de Jacques. C'est quand même pas évident d'avoir le mec d'avant qui vous court après tout le temps. C'était quand même curieux comme situation. Et il l'a accepté. Et elle aussi. Alors que pour elle, c'était un cauchemar. Parce que avant, moi, j'étais tout le temps en voyage. Maintenant, c'est Jacques qui était en voyage avec moi. Je sais pas si vous voyez le truc. Et si je regarde sur la longueur des 50 ans... j'ai fait beaucoup plus de choses et passé beaucoup plus de temps avec Jacques qu'avec elle, en fait. Beaucoup plus. D'ailleurs, il y a un détail qui est très drôle, que je crois que j'ai mis dans le livre, c'est la maison. Vous savez, comme à l'époque, elle avait 18 ans et tout à coup, il lui tombe des tombereaux de pognon sur la tête. Bon, parce que ça a marché très fort, très vite, Françoise, tout de suite. Boum, vous savez, à l'époque, ça allait très vite. Hein. Et puis... Sa mère était comptable, mais bon, elle était un peu dépassée par la situation. Alors moi, j'avais la trouille qu'elle se fasse avoir par des voyous qui voulaient faire une compagnie de taxi. Je veux une compagnie de taxi, tu ne reverras jamais un rond. Tu vois, bon. Donc, comme je ne suis absolument nul pour mes affaires, par contre, pour elle, j'étais, j'y pensais. Je lui dis, écoute, moi, j'ai entendu mon père toujours dire, il faut acheter de la terre et de l'immobilier, il faut faire de la pierre. Donc, on va t'acheter un terrain en Corse. Et on va construire une maison. Bon, elle me dit, ah bon, d'accord. Elle s'en foutait complètement. Puis je dis, tu vas acheter un appartement à Paris aussi. Ah bon, d'accord, très bien. Donc, j'avais un copain dans ma famille qui était architecte. Je lui dis, trouve un terrain en Corse et on va lui construire la maison. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que donc, avec mon copain en Corse, j'ai dessiné la maison. Les plans, tout, la forme de la baraque, bon. Mais le temps que la maison soit finie de construire, je ne vivais plus avec Françoise. Donc, je n'ai jamais habité cette maison avec elle. Par contre, j'ai passé 30 ans avec Jacques dans la maison. Non, oui, je n'ai pas perdu mon temps, de toute façon.
Après l'aventure immobilière, et ensuite... D'ailleurs, vous avez des aventures immobilières. Chaque fois qu'une femme vous quitte, vous avez une aventure immobilière.
Oui, les aventures immobilières, c'est-à-dire que c'est pas seulement qu'à chaque fois qu'une femme me quitte, c'est à chaque fois que je suis dans le pétrin, voilà, mmh. pour quelques raisons. Alors, en général, je suis dans le pétrin d'abord à cause du pognon, parce que j'ai toujours dépensé plus que ce que je gagne. Et évidemment, les femmes avec qui on vit, elles se lassent, quoi. Elles n'aiment pas beaucoup ça. Donc, à chaque fois que je suis vraiment en bas, tout au fond, j'achète une maison, en général. Bon. Que je repère après. Hein. J'en ai eu, je ne sais pas, au cas moins 5 ou 6. Et à chaque fois, les impôts, la banque me reprennent. Bon, je ne les vois plus passer les baraques. Ça n'arrête pas. Mais cette théorie-là, en fait, je sais de qui je la tiens. C'est formidable. Je la tiens de Jackie Stewart, le coureur automobile. J'ai fait un film publicitaire avec lui dans les années 70. Et on déjeunait à Monaco. Et il me dit, écoutez, quand vous êtes sur la ligne droite... à 340 à l'heure, avec 5 voitures autour de vous, et qu'au bout, là-bas, vous voyez une fumée qui veut dire qu'il y a un accident. Là, ça y est, vous êtes dans le pétrin. Il faut savoir que tous les types qui sont autour de vous, pendant un quart de seconde, ils vont lever le pied. Si vous voulez gagner, pas compliqué, vous n'avez qu'à appuyer. Donc moi, j'ai fait ça dans ma vie. C'est-à-dire que dès que je vois que je suis en train de glisser, boum, j'investis tout de suite, même quand je n'ai pas le pognon. Parce qu'en fait, c'est très bien, si vous voulez, parce que quand vous vous mettez dans cette situation-là, vous êtes bien obligé d'en sortir après. Voilà, c'est on appelle les mémoires d'une victime du crédit. Ah, j'ai été dans la merde toute ma vie, et personne ne le croit, en plus c'est ça qui est extraordinaire. Parce que vous savez que quand vous passez votre tête à la télé pour défendre un livre, un film, comme je fais depuis des années, à partir du moment où vous mettez votre tête à la télé, tout le monde vous croit milliardaire, toujours. Ah, c'est extraordinaire.
C'est ce que tout le monde a cru quand vous êtes rentré des États-Unis.
Alors là, tout le monde a cru que j'étais assis sur un tas d'or. Et alors, en plus de ça, l'âge venant, la société, les autres, les gens du métier, ils vous mettent à la retraite. Ils disent, bon, lui, ça va, il est sur son tas d'or, il est à la retraite. En plus, je vis dans l'Aveyron, donc évidemment, c'est loin de Paris. Mais tout ça est faux. Je ne suis pas à la retraite et je ne suis pas milliardaire. Vous comprenez ? Donc c'est extrêmement énervant quand même que les mecs me voient comme un milliardaire à la retraite.
C'est peut-être ce qui vous rend attachant.
Bon, ça, j'en sais rien, mais j'aimerais mieux être un peu moins attachant et un peu moins à la retraite.
Donc vous avez créé cet album. Finalement, le but, c'était quoi ?
Le but, c'est parce qu'on me l'a demandé. Parce que moi, écoutez, je suis comme les caniches, j'ai toujours l'habitude de dire ça, je suis comme les caniches, je fais où on me dit de faire. Moi. Alors, si vous voulez, quand les éditions du Chêne, ouais. Tous les livres que j'ai fait, les livres de photos, c'est jamais moi qui ai eu l'idée, c'est toujours un éditeur. Parce qu'en fait, franchement, moi, mes photos, jamais j'aurais imaginé, d'abord, qu'elles auraient de la valeur. Si on m'avait dit, il y a 45 ans, que je finirais ma vie en vivant des photos que je faisais à l'époque, j'aurais hurlé de rire. Et... jamais j'aurais imaginé que je pourrais faire un livre avec ces photos-là. Mais parce que c'était pas sérieux, d'abord. Et puis, en plus, ça n'avait aucune valeur à l'époque. Aucune. T'envoyais les photos à l'imprimerie, les mecs, ils les jetaient après. Donc, c'est venu depuis 15 ans, quoi, que les photographies ont pris de la valeur. Et mes photos, qui étaient, comme je le disais à monsieur, en fait, juste des images sans prétention destinées à être accrochées au mur des chambrettes des adolescents... tout à coup, les gens qui avaient entre 12 et 18 ans et qui achetaient le journal et qui mettaient mes photos sur les murs, aujourd'hui, ils ont entre 50 et 70. Donc, si vous voulez, c'est les mêmes, sauf qu'ils n'ont plus 12 ans. Et aujourd'hui, ils m'achètent les photos pour mettre sur les murs, pareil, sauf qu'elles sont plus chères maintenant.
Elles sont plus chères. C'est plus l'époque de Salut les copains, c'est vrai.
Non, mais c'est drôle que la nostalgie ait fait remonter ces images-là. Alors, je suis pas fou, hein. Je sais très bien que si je les vends et si j'arrive à vendre et des livres, enfin bon, tout ça, C'est pas que ça génère des sommes énormes, mais enfin, ça me fait vivre. Hein. C'est déjà pas mal. Bon, j'aurais jamais cru que ça arriverait. Mais je sais plus ce que je voulais dire. C'était intéressant, pourtant. Putain. Bon, mais alors, je sais plus tout ce que je voulais dire.
C'était bien. Écoutez. Hein. Il y a dans ce livre, vous les avez trouvés, on dit en préambule que vous en avez trouvé dans les archives qui étaient perdues, certaines, ou complètement oubliées.
Oui, elles étaient oubliées complètement. Moi, alors, surtout, moi, alors vraiment, si vous voulez, je me souviens vaguement des photos que je mettais en scène. Pratiquement toutes, je les mettais en scène. Mais enfin, quand il y a des photos que je faisais en coulisses ou en tournée, et tout ça, bon... Je me suis... Alors donc, ça m'a fait un drôle d'effet de revoir tout ça. Puis c'est très loin, quand même, comprenez ? C'est fascinant qu'on me parle encore de ça. Ça fait il y a 50 ans, vous vous rendez compte ? 50 ans, moi, je pensais en plus que je serais mort à 30 ans. Donc ça fait 40 ans de rab. C'est hallucinant. Donc c'est très loin, tout ça. Alors j'avais gardé aucun souvenir de ça. En plus, j'avais tout laissé... dans les éditions Philippe Aki, parce que bon, c'est grâce à Philippe Aki quand même, tout ça, c'est lui qui a payé tout.
C'était une de vos grandes rencontres.
Bah Philippe. Oui, c'est lui qui m'a tout donné au départ, il m'a donné ma chance, il m'a donné ma liberté, il m'a fait, voilà, il a fait ma carrière ce mec. Donc quand je suis parti pour faire du cinéma, j'ai arrêté en 74 pour faire des films avec Dutronc. Bon, j'ai arrêté la photo net, hein, donc j'ai laissé toutes les photos pendant 30 ans. Et puis au bout de 30 ans, quand je suis revenu, et que... un éditeur m'a dit on voudrait faire un livre avec tes photos, donc j'ai été les récupérer. Voilà. Et comme ça que j'ai fait maintenant.
C'est votre sœur Anne-Marie qui vous a rappelé que vous étiez photographe.
Oui, je vivais à Los Angeles, je faisais des films publicitaires là-bas. Oh, ça marchait très très bien. Je suis resté 10 ans, 5 ans à New York, 5 ans à Los Angeles. Et alors c'est très bien d'avoir vécu ça. Je suis très content que ça soit derrière parce que quand même, bon, je fais partie de la génération qui a rêvé de l'Amérique d'une façon ridicule. Hein, bon, et en plus, je me sens fautif et redevable vis-à-vis de la France d'avoir influencé la jeunesse française à l'époque avec nos obsessions d'Amérique. Entre Philippe Aki, Johnny et moi, c'était infernal. Je veux dire, on ne pensait qu'américain. Bon, et Claude François, pareil. Bon, donc je suis allé vivre là-bas, moi. J'ai passé 10 ans. Bon. Voilà, ça va, j'ai compris. J'ai compris que ce que j'aimais en Amérique, c'est les films américains, en fait. Parce que l'Amérique, c'est pas exactement les films américains. C'est quand même un pays bon, qui vous accueille quand vous avez quelque chose à leur vendre, qui est très efficace, mais c'est quand même le pays qui a inventé la solitude. Hein. Oh la vache ! New York, je le souhaite à personne. Ça me fait marrer tous les gens qui rêvent. Évidemment, tant qu'on n'y est pas allé, on y va en vacances une semaine, c'est merveilleux. Mais attendez, restez là. Ben, je vais vous dire, il vaut mieux être dans l'Aveyron, hein, croyez-moi.
Et pourtant, vous disiez Coca-Cola, Ford me cajolait.
Ah oui, j'avais aucune limite de moyens parce que c'était l'époque où la publicité était en flèche. Là-bas, la mode était au metteur en scène européen, j'étais le seul français. Je ne vous raconte pas dans quelle situation je me suis retrouvé à la Columbia, à Los Angeles. J'étais la star, c'était ridicule. Et ça me faisait marrer. Bon, alors j'ai vécu formidablement ça, si vous voulez. Mais très vite, j'ai réalisé que... Vous savez, j'en ai fait 600 films publicitaires. Ça fait quand même énormément en 15 ans.
C'est énorme.
Parce que c'est-à-dire que votre vie, elle, tout à coup, elle est saucissonnée. Vous voyez, c'est comme la mafia, ils vous font des offres que vous pouvez pas refuser, quoi. C'est tellement de pognon et tellement de pouvoir et de rigolade à l'époque, parce que vraiment je me marrais en faisant ça, je pouvais pas refuser. Mais résultat, un jour j'ai réalisé que ben voilà, 10 ans étaient passés et j'avais rien vécu en fait. Ça allait trop vite, c'était saucissonné, plus l'Amérique. Et ma sœur me dit là-bas, elle était à Paris, elle dirigeait le journal Elle. Elle me dit arrête, qu'est-ce que tu fous en Amérique ? Reviens, t'as qu'à faire des photos. Puis je dis, mais j'ai plus d'appareil, j'ai pas fait de photos depuis 15 ans. Ben, elle me dit, t'as qu'à en racheter un. Et puis, voilà, je suis revenu et j'ai fait des photos pour le journal Elle pendant 10 ans, grâce à Anne-Marie. Parce qu'elle m'a dit, voilà, tu fais ça, caniche.
La femme qui ne causait pas ou qui ne parlait pas, Anne-Marie, c'était quelque chose quand même.
Quoi ? Qui doit ? Qui ?
Elle qui ne parlait pas, Anne-Marie, quand même, elle a su vous dire.
Oh ben oui, non, mais elle a toujours su me dire, Anne-Marie. Elle a toujours su. Elle est très capable. C'est dommage. Bon, maintenant, évidemment, elle est devenue geisha de chanteur, mais c'est quelqu'un de très, très capable. Non, mais elle est très contente avec lui. Il est très gentil. Il est vraiment très gentil avec elle. Donc voilà, ça va. C'est très bien.
Je trouve quand même qu'il y a une des photographies qui est extraordinaire.
Oui.
C'est celle où vous êtes allé en Espagne pensant qu'elle vous trompait et que vous êtes tombé sur ce gosse.
Oui, je croyais que... Parce qu'elle était partie, mais c'était déjà vers la fin de notre histoire en plus. Ouais. Et elle était partie en Espagne et je ne savais pas... Je sais pas où elle était allée. Moi, je m'imaginais tout de suite qu'elle était avec un torero, tout bon. Donc, je prends l'avion et j'arrive, boum, là-bas. Et en fait, elle était sur une terrasse avec un petit garçon de 10 ans qui avait une maladie incurable et qui allait mourir. Et comme il l'aimait, elle était allée le voir. Juste, j'ai jamais eu honte autant de ma vie. J'étais là, moi, prêt à lui casser la gueule et je tombe sur un bébé. Là, tu vois, oh la vache, c'était dur.
C'est une très très belle photographie, vous verrez dans le recueil. Il y en a d'autres qui, évidemment, il y a du tronc. C'est quand même le couple mythique.
Évidemment, il y a du tronc, vous rigolez ou quoi?
Oui, mais d'accord, mais c'est le couple mythique quand même de l'époque.
Non, le couple mythique de l'époque, c'est Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. En fait, c'est eux deux qui représentent le plus les années 60. Jacques et Françoise étaient à part, quand même. Très particuliers, très différents, très secrets, en fait.
Oui,
donc, si vous voulez, le couple des années 60, ouais. C'est Johnny et Sylvie.
C'est vrai.
Et c'était d'ailleurs pas facile à vivre. Hein. C'était très, très dur à vivre, ce qu'ils ont vécu. Là, ça ne pouvait pas marcher. En plus, ils étaient jeunes, ils avaient du succès. Lui, bon, je sais pas, c'est lui, il est cinglé, on le sait. Donc, si vous voulez, il vivait les trucs. Non, mais c'est obligé. Mais d'ailleurs, il voulait Jojo, lui. Il voulait vraiment une famille. Hein. Il voulait, mais il ne pouvait pas. Je veux dire, comment vous voulez, quand vous avez la France entière qui vous adule, que vous avez des gonzesses qui dorment dans le couloir, sur le toit, partout, bon, vous ne pouvez pas lui demander de rentrer ensuite à la maison et de s'occuper de gaz. C'est impossible. Bon, et Jacques, c'était pareil. Jacques, on n'arrêtait pas, nous, on était en voyage et tout, mais vous ne pouvez pas savoir. Que ce soit eux, les Beatles, les Rolling Stones, tout ça, mais j'ai vu, moi, des parterres entiers de filles qui dormaient nuit et jour en attendant qu'ils sortent. Comment voulez-vous être un mari parfait avec ça? C'est impossible. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi je disais ça? Je ne sais plus, mais c'était très bien. Hein,
à propos du couple mythique.
Oui, couple mythique. Ben, Jojo et Sylvie, oui, ça a été extraordinaire. Parce que d'abord, jamais personne n'aurait pu imaginer une seconde. Aucune attachée de presse aurait pu imaginer un truc pareil. C'était quand même la plus grosse vendeuse de disques, lui aussi. Et tout à coup, ils sont vraiment amoureuses. C'est insensé, ce truc-là. Le mariage, ben, d'ailleurs, j'étais témoin du mariage. Je me souviens plus si c'est de Sylvie ou de Johnny, d'ailleurs. Mais bon... Bref, j'étais témoin. Quel bordel ça a été, le mariage. C'était terrible. Donc, ces mômes-là, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais bon, c'était impossible. Et Françoise et Jacques sont pas mal sortis, finalement. Puisque, bon, aujourd'hui, d'abord, ils ont un fils incroyable.
Thomas.
Hein, Thomas, il est absolument incroyable, ce môme. D'ailleurs, à chaque fois que je les vois, je leur dis, il est mieux que vous deux. Il a pris tout ce qu'il y a de bien chez vous. Non, mais c'est vrai. Et aujourd'hui, Françoise et Jacques... Bah, c'est quand même encore ce qu'on appelle un couple. Ah, écoutez, après, au bout de 10 ans, tout couple est un arrangement. Hein. Donc, voilà, maintenant, lui est en Corse, elle est à Paris, mais c'est toujours une famille. Bah, c'est pas mal, quand même. Mais en fait, c'est vrai que c'est une famille, mais en fait, je suis resté quand même dans l'histoire tout le temps, si vous voulez. C'est un peu comme Julie et Jim, sauf que Julie et Jim, c'était deux hommes qui aimaient une femme, là, c'est un mec qui aime un couple. C'est plus tordu, déjà.
Voudrait nous faire croire qu'il est tordu. Il y a deux photographies qui sont extraordinaires. C'est la photo de Mick Jagger et de Françoise Hardy.
Oui, j'ai toujours trouvé qu'ils se ressemblaient. Il faut leur vous montrer. J'ai toujours trouvé qu'ils se ressemblaient d'une façon incroyable. D'abord, c'est les deux plus belles tronches de la
ceux
génération.
Ceux qui ont l'album, allez, page 207. C'est
incroyable.
C'est remarquable. C'est remarquable.
Ils sont vraiment très, très beaux tous les deux.
Oui. C'est incroyable.
Ouais, c'est vrai.
C'est étonnant.
Mais en plus, c'est mes préférés. Je dis, finalement, bon, Françoise, Jacques et Mick, bon, bah, c'est quand même, voilà, c'est ce que j'ai vu de mieux. Et Jojo aussi, je me suis quand même bien marré avec lui. Il m'a vraiment étonné. Johnny m'a vraiment étonné. Bon, non, mais c'est vrai, les gens l'ont pris pour un con pendant longtemps, vous savez. Les méchancetés qu'on a dit sur ce type, mais c'est hallucinant. Et je peux vous dire qu'il est vraiment loin d'être con. Mais vraiment loin d'être con. Mais il ne sait pas bien s'exprimer souvent, Johnny, parce qu'il est mal à l'aise, parce qu'il a l'impression que le type qui est en face, le journaliste en face, le prend pour un imbécile. Et croyez-moi, il n'y a rien de plus difficile que de répondre intelligemment à un mec qui vous prend pour un con. Très difficile. Non, mais je vous assure. Et il se trouve dans cette situation-là, parce que c'est un type, il a fait son éducation tout seul, sa culture tout seul. Voilà, il va avec ses armes à lui. Et en face, il y a des espèces de d'intello à la con qui jugent et qui foutent rien d'autre que juger et qui peuvent le déstabiliser très facile. Alors, et comme en plus de ça, bon, il a tendance à y aller avec les expédients et la bouteille, il peut dire des conneries, ça c'est vrai. Mais c'est un type absolument pas beaucoup, beaucoup plus intelligent qu'on croit, hein, vraiment.
Ça vient encore de lui arriver avec les propos homophobes qu'on lui a reproché.
Oui, bah évidemment. Ah. Attendez, évidemment, ça. Alors, non, il faudrait virer tous les footballeurs, hein, je peux vous dire, hein, parce qu'alors là, ça y va. Non, mais c'est une bêtise d'avoir dit ça. C'est dans le langage commun, ce qui est très dommage. Mais enfin, c'est comme ça. Croyez-moi, ça me fait pas plaisir. Moi, j'ai fait un livre il y a quelque temps. Je sais pas, vous avez vu. J'avais fait un petit bouquin pour défendre justement les mômes qui se font virer de chez eux à 14-15 ans parce qu'ils sont homosexuels, ils sont virés par leurs parents. C'est hallucinant quand même ça. Ça m'a sidéré que ce truc-là. Bon, ça n'a pas de rapport avec ça, mais j'ai trouvé ça tellement incroyable que j'ai dit, il faut donner la parole à ces mômes-là. Ça existe aujourd'hui. Hein, et puis, alors, toutes les classes de la société. Hein. Dans le livre, il y a même un môme, son père, il est médecin à Neuilly. Il le vire parce qu'il est homosexuel, le gosse. Enfin bon, bref, c'était pas le sujet, pardon.
Je vous en prie. Il y a une similitude que j'ai trouvée entre les premières photos où elle tendait de vous dire il fait froid, il faudrait peut-être arrêter, et celle de la page 99.
Oui, oui, non, mais c'est-à-dire qu'il y a des photos comme ça où elle me jette des regards. On se dit, oh la vache, putain, il y a un nouveau... On sent l'amour fou là-dedans. Alors qu'en réalité, son regard, ça veut dire « Putain, arrêtons vite la séance, j'en ai marre !» C'est ça que ça veut dire, oui. Non, mais c'est quelqu'un de très drôle, surtout. Moi, j'ai beaucoup ri, hein. Elle me fait vraiment marrer. Il n'y a eu qu'une période où elle nous a... Alors, vraiment, une période insupportable, c'était sa période astrologie, là. Qu'est-ce qu'elle pouvait nous les casser
avec ça ? Quand elle a publié son ouvrage.
On pouvait pas... Avec Jacques, on n'en pouvait plus. On n'en sortait pas, on ne pouvait rien dire sans que ça soit immédiatement. Ah oui, mais il est ascendant poisson. Hein. Putain, arrête. Mais là, ça va, c'est passé parce qu'elle a vu. C'est drôle, parce que non, mais elle est marrante, hein, parce que c'est une passionnée. Hein. Alors tout à coup, un jour, elle a vu Hélène Grimaud à la télé. Elle a écouté Hélène Grimaud jouer du piano, ça l'a fascinée. Boum, elle a pu parler d'astrologie, elle ne parle plus que de musique classique maintenant. Non, mais c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est ça qui est fascinant aussi chez cette fille. C'est que c'est un peu le principe des vases communicants, Jacques et Françoise. Parce que si vous regardez bien, il y a 35 ans, Jacques, c'est le roi de la fête. Hein. C'est le mec le plus drôle que j'ai vu. C'est un déconneur hallucinant. Il se tape tout ce qui passe et il fait marrer la terre entière. Elle, c'est une petite fille triste qui écrit des chansons dans son coin. Vases communicants, aujourd'hui... Elle, vous lui mettez une bouteille de Bordeaux, elle décolle, mais dans la seconde, et hop, en avant, et on se marre. Et lui est devenu un personnage sombre, qui ne bouge pas de corps, c'est que c'était 30 chats. C'est très curieux, c'est l'inversement de personnalité. C'est très, très étrange. Mais elle est très, très drôle, hein, elle me fait vraiment rigoler. Puis alors, là, par exemple, pour ce livre, bon, je n'ai même pas dit au départ... Je lui ai dit, tiens, bah, je vais faire un livre sur toi. Ah bon, tu crois que ça intéressera quelqu'un ? Tout ce qu'elle m'a dit. Bon. Je lui ai dit, écoute, te casse pas la tête, on occupe. D'ailleurs, je sais pas, vous avez lu son livre, lequel a écrit elle, c'était formidable. Hein. Puis ça a marché du feu de Dieu. Je lui ai dit, écoute, je vais faire un livre sur toi. Oh, bon, si tu veux, bon. Puis c'est tout, on n'a pas reparlé. Je lui ai dit, quand même, une fois que je l'ai fini, je vais aller lui montrer. Parce que je sais qu'elle va me dire des horreurs, évidemment. Comme elle n'aime pas se voir jeune. Et que ça ne l'intéresse pas. Donc, je savais très bien qu'elle me disait des choses, elle me dirait des choses effrayantes. C'est tout ce que j'adore entendre, moi. Donc, je vais lui montrer le livre. Je lui dis, je te préviens, j'enregistre toutes les conneries que tu me dis. Hein, parce que... Et ça sera tout dans le livre. Ah bon ? Et donc, ça, elle a oublié le micro, tout ça. Et alors, ça a donné des moments. D'ailleurs, dans le livre, il y a marqué, tu vois, par exemple, il y a une photo à Venise. Et elle me dit, ah, ben, je me souviens pas qu'on était à la Venise ensemble. C'est agréable, hein. Bon, déjà, bon. Et puis, trois pages plus tard, il y a une photo d'elle en train de se taper des nouilles à Venise. Voilà. Elle me dit, ah, tiens, je me souviens de ça. Ah, je me souviens. Ah, ben, je dis, ah, tu te souviens pas de moi, mais tu te souviens des nouilles. C'est bien, c'est sympa. Je trouve qu'elle est merveilleuse de franchise et de... c'est très rare vraiment dans ce métier là mais c'est très très rare. Attendez, ils sont tous bourrés, c'est que de la langue de bois, que de la langue de bois, que des trucs attendus. D'ailleurs, écoutez, je vais vous dire, c'est même pas seulement dans le spectacle, c'est comme dans la vie, les gens, la plupart des gens, vous savez ce qu'ils vont vous dire et ils vous le disent en plus, c'est fatigant, comprenez, c'est tellement rare les gens dont vous ne savez pas ce qu'ils vont vous dire. Et bien Françoise et Jacques, ça fait 50 ans, je les connais par cœur, je sais jamais ce qu'ils vont me dire. Ça, c'est une chance folle. Donc, je ne veux pas les perdre, des gens comme ça, c'est trop rare.
C'est des découvertes.
Et dans le métier du spectacle, je regarde à la télé, mais comment ils peuvent dire des banalités? C'est très, très étrange. L'autre jour, j'ai vu sur Canal, il y avait Lady Gaga. Bon, cette fille qui a un sens du spectacle, certain. Donc, je m'étais dit, celle-là, ça va être un espèce de Rolling Stone sur deux pattes avec une jupe. Pas du tout. On aurait dit Sheila en 63. Elle disait des bêtises, mais j'étais effaré de la banalité des phrases. Il y a très peu d'artistes qui disent des choses étonnantes, finalement. C'est préfabriqué. Ils disent les choses qui politiquement correctes. Alors, disons un petit peu de mal de Sarkozy pour que la salle explose, voilà, pour qu'on le fasse applaudir. Ensuite... selon le vent, vous voyez, sur le boisier. Ah, attendez, à un moment donné, c'était tous Mitterrand de l'âtre, là, c'était hallucinant. À la suite de quoi, quand Sarko est arrivé, boum, alors, tout à coup, j'ai vu des chanteurs arriver, je ne savais même pas qu'ils avaient une idée politique. C'est incroyable d'avoir aussi peu de recul et de constance. Bon, Françoise, elle n'a jamais changé. Voilà. Elle a toujours dit, moi, je suis de droite. Bon, elle n'a jamais été d'extrême droite, contrairement à ce qu'on voulait la faire croire, mais elle est de droite. Elle dit, ça va. Moi, je n'avais pas un rond, j'ai gagné un peu de pognon, je veux le mettre de côté pour mon fils. M'emmerdez pas, je suis de droite. Oh là là, dites donc, qu'est-ce que ça lui a fait comme tort, vous ne pouvez pas savoir. Bah, vous n'avez qu'à écouter France Inter le matin. Hein. Vous verrez. Non, mais c'est très bien, j'aime beaucoup cette radio. Mais enfin, c'est hallucinant, France Inter le matin, quand même, là. Ah ben, bah, c'est extraordinaire. C'est une propagande. C'est une propagande, c'est insensé. Alors, bon, évidemment, Françoise, quand elle va là-dedans, ben, elle dit ce qu'elle pense.
Oui, c'est surtout pas bien dans le milieu artistique, normalement, il a de bon ton d'être de gauche.
Ben, c'est bien ce que je vous dis, France Inter le matin. Et pourtant, il y a des gens très bien, très intéressants. Mais enfin, c'est extrêmement de parti pris, hein, quand même. Avec tout Pascal Clark, qui, en tout cas, elle est formidable d'ailleurs, très bonne intervieweuse. Oui, mais enfin, bon, clair et net, hein. Ça, je peux vous dire que si vous arrivez avec une étiquette un peu de droite, là, ça y va. Ah, moi, je m'en fous, j'y crois pas, de toute façon. D'ailleurs, moi, j'avais voté Bayrou, figurez-vous, parce que, justement, il avait dit ni droite ni gauche. Parce que moi, je n'en peux plus de la guéguerre droite-gauche. J'en ai marre. Oui, je sais, monsieur, j'ai tort. Vous avez raison, j'ai tort. Parce qu'en plus, c'est une... Oui, je vous ai vu, vous avez fait non. Je vous ai vu, vous avez hoché de la tête. Mais en fait, vous avez raison, je sais très bien, c'est une forfaiture. Parce que ça ne peut pas exister. Mais moi, j'en peux plus. Enfin, je ne sais pas pourquoi on parle de ça. Mais j'en peux plus, là, de penser que pendant les 4 mois qui vont venir, on va entendre que des gens qui disent « Ah oui, non, mais l'autre, ce qu'il a fait, non, c'est pas bien. » Nous, quand on était... Ah non, j'en peux plus de ça. J'en peux plus. Voilà, c'est pour ça que je trouve que Françoise, elle est rare. Parce qu'elle n'a jamais dit « À gauche, quand il faut être de gauche, à droite, quand il faut être de droite. » Elle a toujours dit les mêmes choses, parfois des bêtises, ce qui est très bien, comme moi.
Bien, écoutez, ce qui est étonnant, c'est tous les gens que vous avez pu rencontrer dans votre vie.
Ah, ce qui est étonnant, surtout, c'est qu'on commence par Françoise Hardy en 62 et qu'on finit avec Bayrou. Alors là, dis donc, je ne sais pas comment on l'a fait.
Mais... Oui, mais enfin, écoutez, l'étape Bayrou, on peut passer.
Ah, mais attention, j'ai fait la photo de son affiche, je vous signale, c'est mon candidat. Enfin, de l'année, il y a 3 ans, 4 ans, là, 5 ans, je ne sais plus. Non, là, cette année, je ne le referai pas, mais bon.
C'est comme celle de celui avec qui m'a parlé de vous, c'est Raymond Barre.
Oh, Raymond Barre. Merveilleux personnage.
Alors je vais vous dire, merveilleux personnage. Il m'a parlé de vous, il m'a dit, ce photographe est un garçon élégant et courtois.
Vous ne pouvez pas savoir ce qui me fait plaisir, parce que ce type-là, il m'a absolument étonné, mais vraiment étonné, parce que on m'avait dit, oh mais tu vas voir, ça n'intéresse pas, et il s'endort tout le temps. Bon, je croyais que c'était une méchanceté. Mais effectivement, le premier meeting que je fais avec lui, il y avait 20 personnes autour d'une grande table, dans une salle comme ça. C'était son staff pour la campagne présidentielle. Donc il n'y a que des gens autour de la table qui sont là pour travailler, pour le faire élire. Bon, on commence et il s'endort. Mais il s'endort bien, hein. Une scie, une bûche, ça, au-dessus, tranquille. Il dort, bon. Alors on parle de la campagne. Je faisais un film d'une heure sur lui pour ses meetings. Et à un moment donné, le publicitaire qui dirigeait tout ça se penche vers moi et me dit « Bon, t'as encore un appareil photo ? Parce que tu vois, il faudrait quand même qu'on fasse les photos pour la campagne d'affichage. On n'a rien. » Tu vois, et donc il faudrait... Ben, je dis « Oui, je veux bien, mais vous voulez quoi comme photo ?»« Oh, écoute, il veut rien faire. Donc tu le débrouilles, tu le mets sur un fond bleu, tu vois, tu lui fais faire des gestes, mais il faut que le fond soit bleu. » À ce moment-là, il se réveille.
Il détestait ça.
Raymond Barre se réveille et dit « Bleu !» Bleu comme dans le ciel, dans Hockey Coral. Et il part à se mettre à parler des westerns.
C'était dont il était un grand spécialiste.
Il était un très grand spécialiste. Et tout à coup, il parle. Il me dit, oui, ah oui, il faut que ce soit un fond bleu, comme dans le... il me décrit la scène dans Hockey Coral. Monsieur le Premier ministre, bien, je lui dis, très bien, parfait. Alors, quand peut-on faire la photo? Combien de temps me donnez-vous? Et comme je devais tourner une séquence du film pour la fin à Saint-Jean-Cap-Ferrat, à côté de chez lui, au bord de la mer... Il me dit, je vous donne un quart d'heure. Un quart d'heure ? Attendez, Chirac, il était parti une semaine au Maroc avec un photographe. Lui, il donne un quart d'heure. Je dis, bon, très bien, pas le choix, hein, de toute façon. Et alors là, j'ai justifié mes émoluments. C'est d'ailleurs pas des émoluments, parce qu'en fait, je ne me crois pas... Non, je ne m'étais pas fait payer pour faire ça. Et j'arrive donc à Saint-Jean-Cap-Ferrat, à l'heure dite. Il arrive très poli à l'heure. « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, monsieur Perrier ?» Alors, bon, je le mets de dos à la mer, comme ça c'est bleu, hein, il y a le ciel et la mer, et je l'assois et je lui dis « Monsieur le Premier ministre, je sais que nous avons en commun un goût très prononcé pour l'aïoli. » « Ah oui, c'est vrai, j'aime beaucoup l'aïoli. » Il paraît que vous êtes un très grand, très bon cuisinier d'aïoli. « Ah oui, oui, absolument. » Bon, alors j'ai assis mon assistante en face, je lui dis « Est-ce que vous voulez avoir la gentillesse de donner votre recette détaillée de l'aïoli ?»« Mais avec plaisir, monsieur Perrier. » Et hop, et le voilà qui part pendant un quart d'heure, qui donne la recette. Et alors là, ça y allait les gestes, tout. Il était là vraiment passionné, donc moi je fais les photos. Et pendant toute la campagne, il y avait des affiches partout en France. Il y a marqué « Demain, la France !» Et en fait, il donnait la recette de l'aïoli.
Surtout qu'il faut reconnaître Raymond Barre qui détestait de se faire photographier. Sa femme, qui avait un travers, c'est de se balader avec un appareil photo. Elle faisait ce que j'appelle des photos domestiques. Donc, alors elle disait toujours « Raymond, il faudrait poser. » Alors il lui disait « Écoutez, Ève, vous nous ennuyez. » Et alors un jour, on était tous les deux en Bermuda et on tirait la gueule tous les deux. Ça se voyait. Elle hurlait en train de dire « Enfin, écoutez, vous me gâchez la photo. » Et il disait « Laissons passer. »
Pardon, c'était un mec, c'était un personnage.
Mais
incroyable.
Vous étiez
pas
un
gagner,
des rares. Vous avez été gagner, un des rares à être accueilli à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Vous savez que peu de gens ont pu rentrer à Saint-Jean-Cap-Ferrat.
C'était un personnage extraordinaire, mais il ne pouvait pas gagner, c'était impossible. De toute façon, il s'en foutait complètement de gagner. Ce qu'il voulait, c'était vraiment les emmerder, parce que c'était un type génial. Hein, non, mais il avait un discours extraordinaire. Ah là là, mon Dieu. Ah, comme c'était mieux avant, etc. Bon, alors attention, on ne va pas tomber dans ce travers-là.
Non.
Ah, comme c'était mieux avant. Je vois que des gens qui me disent ça en ce moment, moi. Oui, c'était mieux avant, c'était le bon temps. Oui, enfin, écoutez, il ne faut pas charrier non plus, parce que les gens qui fantasment beaucoup sur les années 60, d'abord, il ne fallait pas avoir mal aux dents. Hein. C'est quand même mieux les dentistes aujourd'hui. Et puis, si ça avait été aussi idéal que ça pour tout le monde, il n'y aurait pas eu mes 68 quand même. Bon. Donc, si vous voulez, c'était formidable pour moi, oui, ça c'est sûr. Et pour les quelques-uns qu'on était. Enfin, bon, pour les femmes qui ont quand même eu le droit à le carnet de chèque en 66, dans la famille, c'était pas terrible quand même.
Enfin, économiquement, on était quand même dans les 30 glorieuses.
Oui, mais on ne le savait pas, c'est toujours pareil.
Exact.
On ne le savait pas. De même que vous verrez que dans 20 ans, ils vont dire « Putain, dis donc, début de 2000, c'était extraordinaire comme période.
Vous verrez, car ça va s'aggraver.
Bien, écoutez, je crois que on va peut-être pas s'arrêter sur « ça va s'aggraver ». Quel est le souhait que vous avez sur la réussite de ce recueil de photographies ?
Que ça se vende ?
Oui, ça je me doute. Mais je pense que... Et que surtout que ça plaise à ceux qui l'achètent.
Bah, oui, c'est fait pour ça. Non, mais non, ce qui m'a plu de toute façon, c'est que... J'ai déjà fait pas mal de livres de photos, mais c'était des livres comme celui que vous avez là, où il y avait tout le monde. Bon. Là, c'est la première fois que je fais un livre sur une seule personne ou sur un seul sujet. Et ça, c'est vraiment... voilà, c'est intéressant, c'est un truc nouveau. Donc, ça m'a beaucoup plu de le faire. Et en plus, elle a été très, très, très gentille, parce qu'elle est allée m'aider dans les émissions, là, chez Ruquier et tout ça. Elle qui déteste sortir et se coucher tard, mais elle l'a fait vraiment pour me rendre service. Je ne lui ai pas demandé, hein. C'était très sympa.
En plus, il y avait une exposition.
Oui, il y avait une expo. Je ne l'avais même pas dit, d'ailleurs, qu'il y avait une expo. Parce qu'évidemment, je savais qu'elle ne viendrait pas. De toute façon, elle ne va pas se déplacer pour avoir des photos d'elle. Quand même.
C'est ce qu'elle a dit, d'ailleurs, à un moment donné. Vous étiez interviewé. Elle a dit « Ah non, je ne pense pas. »
Ben non, bien sûr qu'elle ne va pas aller voir des photos d'elle.
Mais belle aventure.
Mais tout à fait.
C'est une belle aventure. Et on voit quand même que... Cette femme a son âme sur son visage. Voilà.
Ah, c'est le... Attention, c'était le point d'orgue poétique de la soirée.
Bien, eh bien, écoutez, je crois que nous avons passé une excellente soirée. Merci beaucoup, Jean-Marie Perrier.
Merci à vous. Merci.